Bonsoir. Dans une déclaration faite hier au Palais du Peuple à Kinshasa, les députés nationaux élus du Nord Kivu émettent des réserves quant à la réussite des assises de Kampala. Ils avancent comme raison le fait que le M23 est dans son agenda, entre autres le maintien des forces ex-CNDP sur tous les territoires du Nord et Sud-Kivu et la mise en place d'une administration de son obédience, consacrant ainsi la balkanisation du pays. Quelle analyse faire de cette déclaration? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 6 décembre 2012. Participe au débat Grégoire Kiro-Tchongo, député national de l'opposition et élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Monsieur Tchongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Franklin Tchamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tchamala, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Joseph Kongolo, analyste politique, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean-Claude Bukavu au Sud-Kivu. J'estime que la participation des honorables du Nord-Kivu n'est pas nécessaire, car aucun parlementaire n'avait été invité le 23 mars 2009 à Goma, de Donenze de Mbandaka à l'Équateur. Aussi longtemps que les négociateurs ne prennent pas au sérieux le fléau qui a toujours rongé la RDC, rien de bon ne sortira de ces assises. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radioocapi.net.
Les députés nationaux élus du Nord Kivu émettent des réserves quant à la réussite des assises de Kampala. Ils l'ont dit dans une déclaration hier, mercredi au Palais du Peuple, pour la vingtaine d'élus signataires de ces documents. Les deux députés partis pour le compte de la province ne sont pas porteurs du message du caucus. Cependant, ils réaffirment leur compassion à l'endroit de la population de cette province et leur attachement à l'unité du pays, rejetant toute idée de balkanisation. Leur déclaration avait été lue par le député Grégoire Kiro, ses propos recueillis par Mimi Ngumba.
Il ressort des échanges que manifestement le M23 a dans son agenda, entre autres le maintien des forces ex-CNDP sur tout le territoire du Nord Kivu et du Sud Kivu, et la mise en place d'une administration de son obédience, consacrant ainsi une balkanisation de fait. Eu égard à ce constat, les députés nationaux élus du Nord Kivu émettent de sérieuses réserves quant à l'issue heureuse de la crise à travers les assises de Kampala, dont ils ne connaissent ni le tenant ni les aboutissants. Les députés nationaux élus du Nord Kivu contestent le mode de désignation des délégués du Nord Kivu, dont les deux députés à ces assises, et portent à la connaissance de l'opinion que ces derniers ne sont porteurs d'aucun message des élus de cette province. Par conséquent, ils n'engagent que leur propre personne. Les députés nationaux du Nord Kivu adressent un message de compassion à la population meurtrie du Nord Kivu et réaffirment leur attachement indéfectible à l'unité du pays et à son intégrité territoriale.
Monsieur Grégoire Kiro-Tchongo, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition élu du territoire de Beni au Nord Kivu. On vient de vous suivre dans la déclaration que vous avez lue hier au Palais du Peuple. Pourquoi vous émettez des réserves quant à la réussite de ces assises de Kampala?
Madame, un petit rectificatif, je suis élu de la ville de Beni. Et si nous émettons des réserves par rapport aux assises de Kampala, c'est effectivement parce que le gouvernement estime que à Kampala ne doivent se retrouver que les signataires des accords avec le CNDP le 23 mars 2009. Or, aucun député, la société civile du Nord Kivu, personne n'a été associé à la signature de ces accords. Et à partir de là, à partir du moment où le gouvernement estime qu'il faille aller évaluer l'application de ces accords, je ne vois pas pourquoi les députés du Nord qui vous pouvaient se retrouver là-bas, parce qu'ils ne sont pas partie prenante.
Mais pourquoi dans votre déclaration, vous dites que vous avancez comme raison le fait que les M23 aient dans son agenda, entre autres, les maintiens des forces ex-CNDP sur tous les territoires du Nord et Sud Kivu et la mise en place d'une administration de son obédience consacrant ainsi la balkanisation du pays. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils vont maintenir ces revendications?
Madame, s'il s'agit d'évaluer les revendications du CNDP. Je rappelle que parmi les revendications du CNDP, il y a notamment le fait que les anciens militaires du CNDP doivent rester au Nord Kivu et au Sud Kivu. Ça fait partie des revendications du CNDP. Donc si on va évaluer ces accords, eh bien on va aussi se rendre compte si cela a été respecté ou pas. Donc c'est déjà une situation de fait où la constitution n'est pas respectée, parce que les forces armées congolaises, ce sont des forces armées nationales, mais s'il y a des militaires qui estiment qu'ils doivent rester seulement dans leur terroir, ça pose déjà problème. Et c'est ça qui nous fait penser à un début de balkanisation, parce qu'il semble aussi que...
Vous supposez.
Nous ne supposons même pas. Nous partons des accords du 23 mars 2009. C'est ça les accords du 23 mars 2009. Ce sont des revendications essentiellement sectaristes qui concernent une petite communauté du Nord Kivu, parce qu'ils parlent notamment du retour des réfugiés dans les pays limitrophes. Les retours de réfugiés dans les pays limitrophes, les pays limitrophes n'ont pas en leur sein des réfugiés Hunde, Nyanga, Nande et consorts. Non, tout le monde sait que les réfugiés qui posent problème sont des réfugiés Tutsi, donc c'est ça.
Et vous vous insurgez aussi contre le mot de désignation des délégués du Nord Kivu. Pourquoi ?
Tout à fait, madame. Nous estimons que, à partir du moment où il y a des assises à Kampala qui mettent en jeu l'intégrité territoriale, qui mettent en cause en jeu l'intégrité territoriale, et où doivent se prendre de graves décisions pour corriger, j'espère, les graves erreurs qui ont été commises en mars 2009, ben, il est tout à fait normal que, à partir du moment où la représentation nationale y est déléguée à Kampala, que cette représentation nationale déléguée à Kampala fasse l'objet d'un consensus régional, disons provincial. Or, les amis qui ont été délégués là-bas, ils ont été désignés par le pouvoir en place. On ne sait pas sur quels critères, parce que on constate que sur 9 circonscriptions électorales du Nord Kivu, il y a à peine 3 qui sont représentés, et parmi les 3 qui sont représentés là-bas, eh ben, il y a 2 rwandophones et 1 élu de Goma qui n'est même pas originaire de la province du Nord Kivu. C'est tout cela qui pose problème.
Et pourquoi avoir attendu que les travaux commencent pour dénoncer cela, Monsieur Kiro?
Madame, nous n'avons pas attendu que les travaux commencent pour dénoncer cela. Nous avons attendu que nous soyons informés. Voilà.
Voilà, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Pepe Lisungi Botomoito, depuis Kisangani en province orientale. Je considère la déclaration de ces députés comme de l'hypocrisie, car hier, ils ont soutenu toutes les positions du gouvernement en appuyant n'importe quoi si la situation de leur province à l'Assemblée nationale. Alors, cette réveil actuelle de ces députés n'a pas de sens, car les œufs ont été déjà cuits. Et que comme la raconte se tient dans un pays agresseur, soyez sûr que même 80% des revendications du M23 seront prises en compte.
Réaction.
Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur de Kisangani quand il dit que les assises se tenant dans un pays agresseur, c'est sûr que les M23 part favori par rapport à ces revendications. Mais ce qu'il doit savoir, l'auditeur, c'est que à l'Assemblée nationale, il y a une majorité, il y a une opposition. Dire que nous avons toujours été d'accord avec tout ce qui a été décidé par le gouvernement, eh bien c'est faux, parce qu'il y a eu des débats houleux quand il y a eu des débats, parce que la plupart du temps, on refuse même qu'il y ait débat à ce sujet. Mais les rares fois que nous en débattons, eh bien c'est des débats vraiment houleux. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont le gouvernement gère la guerre, et nous l'avons dit à maintes reprises. Et là, il y a vraiment unanimité en ce qui concerne l'opposition et même la majorité. Tout le monde est unanime que la guerre est gérée de façon artisanale et même je ne sais même pas quel terme utiliser.
Alors tout le monde veut que la paix revienne dans cette partie du pays. Les négociations ou les assises de Kampala, est-ce que ce n'était pas une occasion de vous retrouver là-bas autour d'une table afin de trouver une solution durable pour mettre fin à la crise?
Madame, je veux bien qu'on se retrouve autour d'une table, mais on va se retrouver autour d'une table pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que je vous informe que tous ces députés qui sont invités à Kampala là-bas, ils n'ont même pas le droit de citer. Ça veut dire qu'ils ont le statut d'observateur. Et là, je suis gentil quand je dis observateur, parce qu'ils n'ont finalement aucun statut. Ils sont là juste pour regarder les autres faire. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle observateur. En tout cas, ils n'auront pas la parole. Ça veut dire qu'ils ne sont porteurs d'aucun message, ni de la population du Nord Kivu, ni même des députés nationaux du Nord Kivu. Donc c'est ça.
Alors vous n'avez pas raison alors de vous insurger contre ces deux envoyés du Nord Kivu qui ont été désignés pour aller à Kampala?
Bien au contraire, madame. Je m'insurge contre leur présence là-bas parce que cette présence ne sert absolument à rien.
Mais s'il y a intérêt à rien, pourquoi vous vous inquiétez?
Nous nous inquiétons parce que justement, nous ne voulons pas que, à l'issue de ces négociations, à l'issue de ces assises de Kampala, il y ait des décisions qui soient prises et que ces décisions, on soit obligé, nous les députés du Nord-Kivu, de les endosser alors que finalement nous n'y aurons pas participé. Voilà tout.
Merci Monsieur Kiro. Franklin Tshamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cette déclaration des députés nationaux élus du Nord-Kivu?
Merci beaucoup Madame pour l'invitation à cette émission. Je considère que c'est tout simplement certaine démarche prudente. Prudente au regard du comportement qui a caractérisé dans un passé récent un des protagonistes de ce conflit, notamment ce qu'on appelle l'M23 maintenant. Et donc au regard des ambiguïtés qui caractérisent l'attitude de cet acteur important à ces conflits, il était quand même prudent que les députés élus de cette province manifestent, s'expriment en ces termes-là. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous considérez la démarche elle-même qui me paraît assez suspecte du M23, qui est en fait la face visible de l'iceberg constitué par d'autres acteurs. Il me semble que cet acteur soit en quête d'une conjonction d'intérêts. Raison pour laquelle au départ, cet acteur qui était d'ailleurs revendicatif seul de la réévaluation des accords du 23 mars 2009, alors que ces accords étaient signés non seulement par lui, par le gouvernement, mais aussi par beaucoup d'autres groupes armés, cet acteur est demandeur, au départ de cette guerre, en ses débuts, d'abord d'une évaluation de cet accord entre lui exclusivement et le gouvernement. C'est plus tard, dans sa quête, d'une conjonction d'intérêts avec d'autres forces politiques, d'autres forces vives, que cet acteur va penser à tendre la perche en évoquant quelques appâts. Malheureusement, la perche n'a pas été saisie, comme vous le constatez, ni par les opérateurs politiques qui comptent, ni par les forces vives de notre société. C'est ça ma lecture.
Mais le gouvernement va quand même aller discuter avec le M23.
Absolument, le gouvernement est obligé de les écouter et de formuler des réponses par rapport à leurs inquiétudes, probablement. On ne peut pas comprendre que des hommes normaux se réveillent un matin et fassent les ravages qui ont été constatés dans la province du Nord-Kivu sans aucune raison. En tout cas, le gouvernement suppose, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui, que ces hommes et ces femmes, probablement bien pensants, doivent avoir peut-être des raisons qui échappent à d'autres, qui les ont poussés à faire des ravages et des dégâts. Des dégâts qui sont aujourd'hui en train d'être comptabilisés dans le Nord-Kivu.
Et vous pensez que le gouvernement va répondre positivement à toutes leurs revendications?
Non, je pense que le gouvernement va répondre comme il est dit dans les communiqués qui a sanctionné le sommet de Kampala 5. Le gouvernement donnera des réponses aux revendications légitimes. Légitimes, c'est ce qui est dit. Et le gouvernement n'est fondé qu'à donner des réponses aux revendications légitimes. S'il y en a. Et donc, le gouvernement va écouter ces revendications-là.
Et selon vous, les revendications du M23 ne sont pas légitimes?
Bon, lorsque l'M23 demande l'évaluation de l'accord du 23 mars, littéralement, 2009, c'est légitime. C'est légitime. Encore que l'M23 devra se trouver à tous les partis à cet accord pour évaluer cet accord. Mais non, à partir du moment où l'M23 va au-delà, en évoquant d'autres choses,
en appelant
d'autres à cette rencontre, en disant, pour nous, il faut, au-delà de l'accord du 23 mars, qui a posé problème, parler du contentieux électoral, parler des droits humains, parler Et à partir du moment où le M23 s'estime en droit d'associer d'autres, ça veut dire l'opposition politique, la diaspora comme on l'a entendu, la société civile...
C'est illégitime pour vous?
Je ne dis pas que c'est illégitime. Il faut que le M23 nous dise si les cadres se prêtent d'abord à cette rencontre et si effectivement, déjà... les autres partenaires qui sont appelés à la rencontre se sentent sécurisés par rapport au cadre lui-même. Vous entendez déjà la prudence qui est formulée par l'opposition politique du Nord, en fait les députés élus du Nord Kivu. Et donc ça pose le problème du cadre pose déjà problème au départ.
Alors on va prendre pour vous monsieur Franklin Tchamala cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Augustin Mwango, depuis Kalima dans la province du Maniema, les élus du Nord Kivu ont tout à fait raison d'être réticents quant à l'issue favorable des assises de Kampala, qui, à mon avis, sont un gaspillage de temps et des moyens financiers, car la guerre du Nord Kivu n'est qu'une poche d'insécurité parmi tant d'autres qui méritent d'être étudiées et résolues globalement à l'interne et non à l'extérieur. Il n'est pas honnête de dire que la gouvernance actuelle rassure les Congolais, que notre gouvernement ait le courage de rencontrer les chefs de tous les groupes armés congolais actifs sur notre sol afin de répondre dans la mesure du possible à leurs revendications. Dans les cas contraires, je ne vois pas comment la paix pourra revenir dans notre pays.
Réaction, M. Tchamala.
Je pense que l'observation qui est faite par mon compatriote... rencontre ma démarche et la démarche de l'honorable Kirou. Il n'est pas question de faire la confusion du tout. L'M23 est revendicatif depuis le départ de l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. C'est en fait l'évaluation de cet accord qui est à la base du déclenchement de sa guerre. Maintenant, qu'on en soit venu à rajouter d'autres recettes, n'est-ce pas, et à l'ordre du jour ou au cahier des charges du M23, en prévision de la rencontre du Kampala, c'est peut-être légitime pour le M23. Il appartiendra au gouvernement congolais, qui est parti à l'accord du 23 mars, de ramener les choses dans leur juste proportion. Par rapport à la rencontre du Kampala, je pense que l'ordre du jour sera focalisé sur l'accord qui est à la base du déclenchement de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes chez nous.
Merci.
C'est cela. Et rien d'autre.
Merci monsieur Tchamala. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique dans leur vous avez suivi la déclaration des députés nationaux élus du Nord Kivu qui émettent beaucoup de réserves quant à la réussite des assises de Kampala. Ils avancent comme raison le fait que les M23 dans leur agenda revendiquent demandent le maintien des forces ex-CNDP sur le territoire du Nord et Sud Kivu et la mise en place d'une administration de son obédience, consacrant ainsi la balkanisation du pays. Comment vous analysez cette déclaration?
Bien, merci madame, et je voudrais saluer les co-débatteurs qui sont réunis autour de cette table ce soir. Je crois que les députés sont plutôt réalistes, qu'ils puissent émettre des doutes quant à l'issue de ces négociations. Je crois que toutes les revendications exprimées du côté du 1-23, à mon avis, ne sont pas des véritables revendications qui ont été à la base de cette guerre. Ça, c'est du folklore. Ils ont ramassé à gauche, à droite, dans la société, les revendications résiduelles qui caractérisent cette turbulence politique en République démocratique du Congo et en faire un cahier de charge pour négocier, je ne pense pas. Du côté du pouvoir, il y a, quelle est l'hypothèse, l'hyper-hypothèse du pouvoir? Quelle est sa revendication principale aujourd'hui? C'est une négociation qui est entamée sans victoire militaire sur le terrain du pouvoir. C'est une négociation qui est entamée sans victoire diplomatique parce qu'on négocie après le départ des forces du M23 du Kivu. Donc, il n'y a pas eu une victoire diplomatique à proprement parler. Parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes à partir d'une décision qui vient d'ailleurs des véritables commanditaires du pouvoir. Donc, il n'y a pas ni victoire militaire, moins encore une victoire diplomatique proprement dite. Ça, c'est du côté du pouvoir, c'est qui montre combien est fragile l'issue, n'est-ce pas, de ces négociations. Et du côté du 1-23, je dis bien que les revendications qu'ils mettent à l'avant ne sont pas des véritables revendications. Il y a des choses qu'ils cachent pour lesquelles ils ont déclenché la guerre et ils doivent le dire. Alors, si le pouvoir croit que à Kampala, ils iront pour revisiter revisiter les accords du 23 mars, je crois que c'est faux. Et ce sont des négociations qui seront reportées, simplement parce qu'on ne se mettra jamais d'accord sur les désaccords, jamais d'accord sur les accords. Simplement parce que les agendas cachés ne sont pas exprimés du côté du pouvoir ou encore du côté de 1-23. Ça, nous le savons. Ce qu'ils ont ramassé ici, c'est pas ça qui a déclenché la guerre. Donc, il y a véritablement, j'ai parcouru les accords du 23 mars. À mon avis, je ne vois pas ce qui pouvait bien déclencher cette guerre. Donc, les véritables revendications du M23 sont cachées. Ça, c'est un avis personnel. Ce sont cachées. Et le pouvoir doit dire la vérité.
Et les députés élus du Nord Kivu ont-ils raison d'être réticents quant à l'issue favorable de ces assises?
Absolument, absolument. Écoutez, ce sont des négociations. Si on doit suivre ces négociations sans mettre en branle d'autres stratégies, comme le président de la République l'a dit, soit l'aspect militaire, nous allons demeurer dans ces négociations éternelles et nous risquons de consacrer la balkanisation. À défaut peut-être de prendre la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, on risque, n'est-ce pas, de les laisser au niveau de Rutshuru. Mais Rutshuru, c'est la République démocratique du Congo. Donc, ce que nous craignons, c'est que nous sommes engagés sur une voie qui risque de faire une année, deux ans, pratiquement à la manière de l'Israël et la Palestine. Donc, je voudrais franchement que les revendications de l'un ou l'autre soient clairement établies, clairement exprimées. Et de cette manière, on pourrait imaginer l'issue de cette... Du moment que les véritables revendications ne sont pas exprimées, il n'y a pas franchement de quoi espérer, n'est-ce pas, que ces négociations vont aboutir à la fin de la guerre et à la libération, n'est-ce pas, du territoire congolais par les gens du 1-23 avec leurs collabos.
Et donc pour vous, cette rencontre ne doit concerner que le gouvernement et les M23?
En fait...
La société civile ou l'opposition?
Non, qui se disent d'abord... Pourquoi la guerre? Qu'ils nous disent d'abord pourquoi ils se battent. Ça, c'est la première chose. Ils parlent des accords. Tout le monde se réfugie dans les accords du 23 mars. Le pouvoir dit non, il a exécuté les accords du 23 mars. L'autre dit on n'a pas exécuté les accords du 23 mars. Nous avons finalement eu ces accords. Et à les lire, je ne vois pas ce qui pourrait engager cette guerre, arriver, n'est-ce pas, à mettre plus de 70 000 personnes hors, n'est-ce pas, de leur maison, à tuer, à violer, à faire tout ce qu'il y a eu. Et à dépenser 600 millions de dollars, n'est-ce pas, en l'espace de 6 mois, pendant que le pays est pratiquement par terre.
On va prendre pour vous, Joseph Kongolo, cette réaction qui nous vient de Bukavu, sur Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud du Kivu. La réussite des assises de Kampala est aussi incertaine, tant que pour le gouvernement, les revendications de M23 sont à évaluer, et que pour le M23, elles sont à négocier.
Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Le gouvernement, lui, pense qu'il faut évaluer et le M23, pour eux, il faut négocier.
C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que pour le M23, il va au-delà des accords du 23 mars. Quand il réclame déjà une administration d'obédience M23, au sud Kivu, au nord Kivu, ça montre déjà que ça ne concerne pas les accords du 23 mars. Donc, c'est ce qui montre effectivement, c'est justement la raison pour laquelle les députés du Nord Kivu ont exprimé, n'est-ce pas, toutes ces réserves. C'est avec raison, parce qu'en fait, quand ils seront là, ils vont d'abord chercher à se mettre d'accord sur les accords ou sur les désaccords. C'est en ce moment-là que ça prendra des temps et des temps et des temps et des temps, et nous risquons de rester comme l'Israël et la Palestine. Donc, et en ce moment-là, c'est nous qui allons perdre. C'est la République démocratique qui perd, ça ne sera pas le 1-23. Parce qu'ils vont se renforcer sur le terrain.
Merci Joseph Kongolo. La société civile du Sud Kivu encourage le gouvernement dans sa démarche de négociation en cours avec le M23, mais elle dénonce toute éventuelle négociation qui porterait sur certaines questions jugées sensibles, que précise ici son vice-président des cartes, Pongé, au micro de Jean Kassami.
Au-delà de tout ça, nous disons qu'il y a des points non négociables. Nous allons nous insurger contre les points suivants si jamais on les inscrit à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'ordre constitutionnel établi. Nous, on ne voudrait pas qu'on puisse déstabiliser l'ordre constitutionnel établi. Le deuxième point, c'est la révision de la Constitution, comme ça a encore été fait cavalièrement l'année passée. Le troisième point, c'est l'intégrité du territoire national ainsi que sa souveraineté. Et enfin, l'amnistie aux auteurs des crimes internationaux. Donc, si on revient sur ces questions-là, nous allons nous y opposer catégoriquement. Et nous savons que nous avons le soutien du peuple congolais, non seulement du Sud Kivu, mais de toute la République, voire d'autres citoyens des pays étrangers qui vont nous aider à défendre ces causes nobles.
Monsieur Grégoire Kirotungo, comment vous analysez ces déclarations de la société civile qui encourage le gouvernement dans la démarche, dans sa démarche des négociations en cours avec le M23, mais reste catégorique sur certains points qui ne doivent pas être négociés à Kampala? Entre autres, vous avez suivi la révision de la Constitution et l'amnistie des auteurs des crimes.
Merci. Je crois que nous devons faire un diagnostic clair de la situation à la veille des négociations à Kampala. Le gouvernement congolais sort d'une défaite militaire. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas mâcher les mots. Nous avons été défaits militairement. Ça veut dire que nous allons à Kampala, le gouvernement va à Kampala en position de faiblesse. Or, il y a un grand homme d'État américain qui s'appelle Henry Kissinger. Il était le secrétaire d'État Jimmy Carter, je crois, dans les années 70. Et il disait, un des principes en diplomatie, c'est qu'il faut négocier seulement quand on est en position de force, quand vous êtes sûr de glaner le maximum de fruits. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons dire, voilà, ceci n'est pas négociable, ceci c'est vraiment hors de question. Mais à partir du moment où le M23 arrive à Kampala avec la victoire militaire, le M23 arrive à Kampala avec le sentiment qu'il donne à la face du monde d'avoir rempli sa part du contrat en quittant quittant de bonne foi la ville de Goma. Mais quoi, il est en position de force. Moi, je crois que le gouvernement a failli dans sa mission d'assurer l'intégrité nationale, d'assurer la formation d'une armée républicaine, d'une police républicaine, des services de services de sécurité conséquents. Or, l'armée, comme nous le savons, elle est quand même l'armée est le reflet de la société nationale. Autant l'armée est corrompue, autant l'armée est désorganisée, mais autant la société congolaise l'est. Ça veut dire que quelque part, nous avons tous failli dans l'élaboration d'une société forte et développée. Voilà pourquoi moi je crois que face à l'adversité, nous avons l'obligation de faire bloc. Nous devons faire bloc. La nation congolaise doit faire bloc autour d'un idéal commun qui est celui de la reconstruction nationale, de la remise sur pied d'une armée républicaine, de la remise sur pied de la bonne gouvernance. Voilà pourquoi je crois qu'il faut absolument que tous les acteurs sociaux et politiques se mettent autour d'une table de pouvoir. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui peut être fait pour sauver les meubles? Parce que les meubles, il faut qu'ils soient sauvés, la nation est en danger.
Et pendant ce temps, la ville de Goma est menacée. Il faut trouver des solutions rapidement pour sortir cette ville ou cette province des menaces qui la guettent.
Effectivement, la ville de Goma est menacée. Et ça, c'est des solutions. Et c'est une solution qui est à court terme qu'il faut trouver d'un point de vue diplomatique. Nous n'avons pas une autre solution que de faire bouger tous nos canaux diplomatiques, les Nations Unies, les grandes puissances. Nous n'avons pas une autre solution que celle-là.
Monsieur Franklin Tshamala, le gouvernement a failli à sa mission de protéger la patrie?
Bon, c'est une vue d'esprit. C'est une vue d'esprit. Je pense que tout le monde sait que nous sommes en reconstruction. Nous sommes un État en reconstruction. Depuis Sun City, l'État était déjà défait. Défait par sa configuration de l'époque avec entité ici, composante là-bas et tout. L'État s'est reconstruit à Saint-City et depuis lors nous sommes en reconstruction et ce processus prendra le temps qu'il prendra. L'armée est en reconstruction, vous savez, les entités, les composantes au dialogue Saint-City ont donné chacune à l'État, en fait à l'armée, ce qu'elles avaient. Et les pièges de l'armée est parti de là. Et donc si nous parlons d'une armée aujourd'hui faible, une armée infiltrée, une armée composée par des personnes qui ne valent pas la peine, tout part des Saint-City. Et donc nous devons assumer cela et ne pas responsabiliser et indexer le gouvernement actuel seul. et donc de nous assumer face à l'histoire et essayer aujourd'hui d'envisager des solutions qui soient durables pour l'avenir. Et donc maintenant...
Mais depuis Sand City, ça fait 9 ans, on a eu des élections en 2006 tout à et fait. Même en 2011.
Tout à fait, mais avant d'arriver aux élections, il vous souviendra que déjà sous la 1 plus 4, alors que toutes les composantes étaient aux affaires, Moutebouzi était né, Kunda est venu pour élire Moutebouzi. Lorsque, en fait, la mandature 2006 et 2011 arrive, CNDP est né dans le même cheminement, ça veut dire que quand Moutebouzi part, il promet de revenir, il revient comme Kunda, et quand Kunda part et promet de revenir après la mandature 1 plus 4, il revient sur la législature 2006 et 2011 sous forme du CNDP, et quand celui-ci est parti, il promet de revenir, c'est maintenant Bosco Ntaganda qui revient, et quand Bosco Ntaganda est parti, c'est Makenga qui revient. Nous ne savons pas qui reviendra demain parce que Makenga est parti en disant « Je reviendrai, je suis parti sans partir ». Vous comprenez, madame? Et donc, il ne s'agit pas ici de démissionner collectivement en disant « C'est elle ». Nous devons assumer notre responsabilité face à l'histoire en disant « Nous avons édifié cette armée sur des fausses bases ». Sur des fausses bases. L'armée est infiltrée à partir de Sand City, nous ne cesserons jamais de le dire.
Et comment vous répondez à ceux qui disent, par exemple, que le gouvernement congolais a mal géré cette question de la guerre du Nord Kivu?
C'est encore une vue de l'esprit. Une armée infiltrée, jusque dans ce qu'on appelle le sacré de l'armée, le cœur de l'armée, ne pouvait pas s'attendre à autre chose
qu'à ceci. Mais comment on ne peut pas dénicher tous ces infiltrés depuis tout ce temps, M. Tchamala?
Madame, mais... Regardez comment on fonctionne. Nous sommes dans un cycle des accords qui n'en finit pas.
En 2006, il n'y a pas eu d'accord.
Comment? Avec le CNDP, il y a eu quoi? C'est un accord qui a vu encore notre armée recevoir des gens qui venaient donner ses où. Maintenant, là, lorsque les gens disent « Nous voulons évaluer l'accord », ça veut dire qu'ils veulent qu'à la faveur de cet accord, parce que nous sommes dans un cycle qui n'en finit pas, à la faveur du prochain accord qui arrive après l'évaluation, qu'encore une fois, cette armée qui est déjà trop faible soit affaiblie davantage en recevant encore d'autres traîtres.
Merci, Monsieur Tchamala. Joseph Congolo, la RDC est un pays en reconstruction. Est-ce que c'est une raison pour qu'on n'arrive pas à mettre fin à cette crise du Nord Kivu?
C'est vrai, madame, que la République, l'État est en reconstruction, en refondation, un pays démocratique du Congo, mais il n'y a aucune raison que nous puissions vivre les affres de la guerre comme nous les vivons aujourd'hui. Un, la mauvaise gestion de la défense en République démocratique du Congo. D'abord, l'absence d'une politique de défense dans ces pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la défense est toujours un élément du projet politique. Or, M. Kabila, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est au pouvoir. Je crois que ça fait 2 fois qu'il est élu. Il devait déjà mettre sur pied une politique de défense. En fait, il a hérité d'un pays, n'est-ce pas, qui a été totalement défoncé. 10 ans plus tard, je crois qu'il devait déjà avoir des prémices d'une armée capable de se défendre, surtout devant des rébellions de la nature des Maïmaï, Kunda et tout ce monde, n'est-ce pas, qui pullule à l'Est. Je crois que il avait tout le temps pour le faire. Il faut pas prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour réformer une armée. Non. Je crois que l'armée, la défense, ce sont les éléments d'une politique. Et du moment que le projet politique de M. Kabila n'a pas pris en compte la défense, la réforme de l'armée comme priorité, c'est là que nous disons qu'il est responsable. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la défense est toujours le fait de l'État. Ce n'est pas le fait des individus. Ce qui a été décidé à Sand City, c'était des individus qui se sont décidés, mais celui qui exerce l'imperium devait orienter l'ensemble, n'est-ce pas, de ces fondamentaux qui font exister un État, n'est-ce pas, pour pouvoir l'asseoir au milieu. Vous savez, madame, vous savez que l'ensemble des États qui entourent la République démocratique du Congo, ce sont des régimes militaires. Par conséquent, M. Kabila devait se mettre ça en tête et commencer déjà à monter une armée qui soit capable de faire face, n'est-ce pas, à toutes les agressions en provenance de l'étranger. Or, nous avons une histoire de guerre avec tous ces pays. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, la responsabilité relève du gouvernement. Nous n'avons pas le droit d'aller indexer les Chégué ou encore les professeurs d'université pour ceci ou pour cela. Ici, c'est clair, c'est une matière précise. C'est lui qui a l'impérium et qui l'a exercé 10 ans durant. Lui qui a vécu la guerre, qui l'a vu prendre fin et qui l'a vu renaître, il devait avoir les éléments nécessaires pour pouvoir monter une armée qui soit capable de faire face et surtout de ne pas faire subir à la population toutes ces atrocités qui est en train de vivre pour le moment.
Merci Joseph Kongolo. Les auditeurs sont très nombreux à nous envoyer leurs réactions. Kombi de Butembo, Nord Kivu, il est dangereux de chercher la paix sous le toit de son ennemi. Que les députés du Nord Kivu ne se mêlent pas à ces jeux mafieux car la RDC ne va à Kampala que pour accepter tout ce qui sera dit par l'agresseur. Aller à Kampala n'est qu'une promenade. Prof Ignace Ndala de Kolwezi au Katanga. Je pense qu'il n'est pas du tout aisé de trouver des solutions durables lorsque déjà le contenu du débat diverge. En tant que patriotes, nous devons proposer les voies les meilleures pour un bon aboutissement pacifique. En outre, que le gouvernement ne s'enferme pas car les problèmes concernent tous les Congolais. Grégoire Kirochongo, tout le monde, vous semblez être dubitatif ou sceptique quant à une issue heureuse de ces négociations ou de ces assises de Kampala. Qu'est-ce que vous proposez pour sauver la ville de Goma ou encore la province du Nord Kivu, je dirais même la RDC qui est menacée?
Merci madame. Là je rejoins vraiment l'auditeur de Butembo qui dit que rien de bon ne peut sortir de Kampala. Effectivement, nous allons à Kampala en position de faiblesse. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je crois que les négociations doivent se dérouler à deux niveaux. Un premier niveau concerne l'évaluation, effectivement, des accords entre le M23 et le gouvernement. Après qu'ils se soient mis d'accord sur comment les accords ont été exécutés. Maintenant, il y a un deuxième niveau qui concerne la réconciliation nationale. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Le pays est divisé. Nous sommes sortis des élections du 28 novembre 2011 plus divisés que jamais. Les élections ont apporté plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu. Ça, c'est vraiment une évidence. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. La preuve, c'est que l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale, elle n'a pas été suivie de beaucoup d'effets. Comme d'ailleurs l'appel du gouvernement au recrutement de jeunes gens pour renforcer notre armée, ben écoutez, c'est-à-dire il y a une cassure entre le pouvoir et la société, et au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose d'indéniable. Voilà pourquoi il faut rétablir les équilibres en nous mettant autour d'une table et trouver des solutions ensemble. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution à cela.
Donc pour vous, la solution pour mettre fin à cette crise, c'est situé à deux niveaux. On retient évaluer les accords de Goma et puis la réconciliation nationale. Monsieur Franklin Tshamala.
Je suis convaincu que Kampala ne fournira pas des réponses véritables aux véritables mobiles de cette guerre, parce qu'en fait les véritables mobiles de cette guerre ne sont pas sur la table des négociations, à juste titre d'ailleurs. L'accord du 23 mars, c'est un subterfuge qui est destiné à distraire l'opinion congolaise, simplement, pendant que ceux qui ont à l'esprit le projet du démembrement du Congo sont occupés maintenant à évaluer l'essai qu'ils ont effectué avec Makenga. Ils sont en train d'évaluer quels ont été les points forts et les points faibles afin de pouvoir lancer le dernier assaut sur la province du Nord Kivu. Parce que lorsque l'M23 vous dit, ou les éléments de l'ex-NDP disent qu'en ce qui les concerne, ils ne sont pas prêts à être déployés ailleurs, en réalité ils nous disent que ce qui les intéresse, ce n'est pas tout le Congo. Ce qui les intéresse, eux, c'est uniquement quelques compartiments de la province du Nord Kivu. Ils entendent mourir pour ce compartiment-là parce qu'ils sont payés pour ça. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, notre gouvernement qui va...
Pour vous, la solution n'est pas à Kampala.
Elle n'est pas à Kampala du tout, la solution, et je pense que notre gouvernement ne la prendra pas de moi. La solution est effectivement dans la préparation sérieuse que nous devons faire d'une guerre qui s'annonce très longue et très populaire.
Et donc pour vous, la solution, elle est militaire.
Et les militaires, elle passera par là, où nous allons abdiquer... Et où le Rwanda abdiquera. C'est l'un ou l'autre. Parce que le Rwanda est préparé à nous faire une longue guerre.
Merci.
Tout le monde sait que l'Ouganda et le Rwanda ne sont que, bon, ce sont en fait les vrais commanditaires de la guerre.
Merci, monsieur Tshamala. Joseph Kongolo, évaluer les accords du 23 mars, réconciliation nationale, ce sont les propositions de l'honorable Kiro. Monsieur Tshamala, lui, propose une solution militaire. Votre point de vue?
En fait, au-delà de ces deux propositions, il n'y en a pas d'autres. Mais ce qui est vrai, c'est que celui qui se refuse d'appliquer les nouveaux remèdes, il va souffrir de nouveaux maux. Il faut écouter. On n'aurait pas pu arriver à cette guerre si on avait exercé l'écoute démocratique. C'est un problème sérieux. Toutes ces choses étaient connues bien avant par les députés. Ils n'ont pas eu le courage de le dénoncer. C'est ça le problème. Et il faut écouter et appliquer des nouveaux remèdes. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Je crois que les solutions, elles sont connues. M. Tchamala vient de le dire. M. Kiro vient de le dire aussi. C'est-à-dire que la négociation aujourd'hui, sur un territoire qui nous agresse, c'est un bluff. C'est un bluff, tout ce qu'on entend, c'est un bluff. C'est pour nous distraire, passer les vacances, passer les fêtes de fin d'année. Et puis, dès le mois de janvier, peut-être même le jour de fête, ils vont encore rattaquer Goma. Parce que personne n'est prêt à céder aucun morceau de territoire. Personne n'est prêt à céder l'administration, n'est-ce pas, du Nord Kivu à M23. Sur base de quel principe? Élection? La négociation ne peut pas être faite. Je crois que la société civile du Nord Kivu a dit clairement, n'est-ce pas, ce qui doit être dit. Je crois que le pouvoir, quand il part, il doit nous dire quel est son hyper-hypothèse. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Parce que la guerre n'est plus à Goma. La guerre n'est plus à Goma aujourd'hui. Elle est confinée, n'est-ce pas, au niveau de Rutshuru. Mais ce que nous voulons, c'est que si la guerre prenne fin, qu'on restaure l'intégrité du territoire national. C'est ça que nous voulons. Est-ce que c'est ça le motif, c'est ça le mobile du gouvernement quand il va aux élections? Ce n'est pas ça, c'est pour aller relire les accords du 23 mars. Non, nous voulons, n'est-ce pas, que la guerre prenne fin et qu'on consacre nos énergies à développer notre pays plutôt qu'à se battre ou à dépenser de l'argent inutilement pour la guerre.
Alors la CENCO a fait une déclaration cet après-midi. Elle demande aux participants à cette rencontre de Kampala de ne pas hypothéquer l'unité de la nation congolaise et de ne pas avaliser les accords qui pourraient consacrer la balkanisation de la RDC. Finalement, on a l'impression que tout le monde pense que cette rencontre, c'est pour aller consacrer la balkanisation de la RDC.
C'est une preuve que la population est attentive et vigilante. C'est une preuve. Vous risquez de croire que vous êtes un petit cercle de 4, 5, 6, où vous allez négocier en coulisses. Sachez-le que le peuple est très vigilant. Ça, je vous le dis. À ce propos, le peuple sait que les dessous des cartes visent la balkanisation du pays. Et là, nous en appelons à la mobilisation de la population aujourd'hui, particulièrement à l'Est, eux qui sont sur le terrain, d'être mobilisés, très vigilants contre, n'est-ce pas, toutes les velléités, n'est-ce pas, de bradage, n'est-ce pas, d'un morceau de territoire national.
En conclusion, Joseph Kongolo, il nous reste au moins de 3 minutes.
Je voudrais tout simplement qu'on applique les nouveaux remèdes. Il faut exercer l'écoute. Les solutions sont dans la population. Partout au monde, la population est plus intelligente que les individus. Ce ne sont pas les 34 membres du gouvernement qui sont plus intelligents que la population. C'est faux. Les éminences grises se trouvent dans la population. Il faut les écouter. C'est là qu'il y a des solutions.
Merci Joseph Kongolo, Grégoire Kirochongo. Votre mot de conclusion.
Merci. Je crois que nous n'avons pas d'autre solution que de nous mettre autour d'une table afin de voir ce qui ne marche pas et comment remédier à tout cela et notamment comment mettre sur pied une armée compétitive. Voilà, donc on n'a pas d'autre solution que cela.
Monsieur Tchamala.
Comme l'avons dit tantôt, en ce moment, le chef de l'État est engagé à consulter la classe politique congolaise. Envie de pouvoir effectivement faire front commun face à cet adversaire qui a montré jusqu'à quel point il convoite une partie du Congo. Et donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous liguer derrière Kabila pour effectivement en finir une fois pour toutes avec l'agresseur de la démocratie du Congo.
Merci Monsieur Tchamala. On va prendre une ou deux réactions des auditeurs. Teddy Longue de Bukavu Sud Kivu, il suffit d'entendre les différentes déclarations divergentes des hauts responsables de la majorité présidentielle pour croire à la non prise en considération de la crise de l'Est par la majorité et conclure que le 6e sommet de Kampala n'est qu'une grosse montagne qui accouchera d'une souris. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui nous a aidé à préparer et réaliser cette émission. Guy Maté, assisté de Samuel Kachak sous la supervision de Pele Kipelamondo. Merci à Willem Lungamba qui est à la technique, au micro, au Kelin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.